Merci, là. Une autre, on a essayé de jouer à Donjon Dragon, là, puis on a payé la gang des comptes et des dés, puis ça a été vraiment super le fun, là. Mais maintenant, j'ai tellement plein d'idées, là. J'aimerais ça devenir maître de jeu, mais comment je fais ça, moi?
À vos dés, prêts, rollez!
Bonjour et bienvenue à vos dés, prêts, rollez. Mon nom est Jonathan, et cette semaine, nous avons une merveilleuse discussion avec Ludo, Flamme, après vous avoir parlé de comment vous lancer dans le jeu de rôle et vous avoir proposé un service de maître de jeu payant pour pouvoir tester certains modes de jeu, l'étape suivante serait que l'un d'entre vous devienne le tant redouté maître de jeu. Et donc cette semaine, c'est le sujet de notre discussion, le rôle de maître de jeu et comment vous y lancer. Je vous souhaite donc une excellente écoute. De comment se lancer dans le jeu de rôle. Avez-vous fait le saut? Et si oui, laissez-nous savoir dans les commentaires comment fut votre première expérience. Un des plus grands problèmes actuels est de trouver un maître du jeu. Certains cherchent des joueurs ou offrent des services de maître de jeu payants, mais au final, plus de joueurs cherchent un maître de jeu de D&D que de DM cherchent de joueurs. Pour parler de ce rôle que plusieurs évitent comme le COVID, cette semaine, nous avons Flamme Beauregard et Ludo Donstark tout ça. Mais avant tout, comment ont été vos sessions de jeu de rôle cette semaine? Flamme?
Alors, cette semaine, j'ai eu le droit à une partie d'un de mes maîtres du jeu qui me surprend. Sincèrement, qui nous lance dans une game que j'avais pris avec un regard classique, d'aventure, KPDP, mais il est beaucoup plus concentré sur les percussions de nos décisions et le développement psychologique de notre personnage. Parce que j'ai très peu de maîtres du jeu qui se lancent là-dessus. Donc, j'ai vraiment gâté en termes de maîtres du jeu quand je peux être joueuse. Je dirais que ça accapare beaucoup mes pensées parce que là, je veux vraiment être prête pour la prochaine game. Alors, entre ma game où je suis joueuse dans Curse of Strahd et celle-là qui est un monde avec beaucoup de présence à propos des dragons, sincèrement, je suis gâté. C'est à chaque mardi. Donc, à chaque mardi, j'ai un rythme assez régulier maintenant. Donc, j'aime vraiment ça. En termes de maître du jeu, j'ai une nouvelle campagne où est-ce que le concept que mes joueurs m'ont demandé, c'est on veut jouer dans une caravane. Donc, on veut jouer une caravane qui va de ville en ville. On veut jouer une économie. Puis
c'est
bon. C'est vraiment cool. Donc, c'est simple, mais c'est incroyablement le fun. Je me dis, ils vont trouver ça cheap, l'économie que j'ai créée et tout ça. Puis finalement, autant qu'il y a la partie économique, autant qu'il y a la partie aventure qui découle de ça, je suis comblé, autant comme joueur que comme maître. Et toi, Ludo?
Nous autres, c'est avec tristesse qu'on joue les dernières parties d'une de nos amies qui va nous quitter. C'est les deux dernières parties. C'était l'avant-dernière cette semaine. Puis, c'est rough. On dirait qu'on a comme vécu quelque chose. Veux pas, là. T'sais, ça fait comme plus qu'un an qu'on joue ensemble. Puis là, à part pour le Yukon, il y a comme plus ou moins de possibilités de pouvoir continuer avec. C'est ça. Ouais. Mais puis sinon, en plus, à partir de jeudi, tout a dérapé. J'avais plus aucun contrôle. Il faisait ce qu'il voulait. C'était une des games les plus difficiles que j'ai eu à faire en tant que maître de jeu.
Finalement, c'est un mardi des héros d'Arylus bien normal.
Mais, dans le fond, moi, ce qui est toujours le plus important, c'est qu'il y ait du plaisir. Puis, vu qu'ils étaient à bout de leur chaise tout le temps, j'arrivais, puis là, j'étais comme, OK, t'sais, on y va, tu sais. Mais c'est ça. Ouais. Mais, un druide qui parle à des plantes, puis un warlock qui parle à des animaux, là. Quand il faut que tu fasses toutes les plantes qui existent sur sa planète, puis tous les sons d'animaux, là, ben, c'est ça. Vous voulez devenir maître du jeu? Ouais, des fois c'est de l'ouvrage.
Des fois.
C'était ça pour moi. Puis toi, Phoenix?
Dans mon cas, ça a été le bordel aussi. Le début de la game, ça a bien été, mais je voulais jouer quelque chose d'un peu plus émotionnel, fait que je leur ai placé un NPC, et le défi était de lui enlever la vie pour qu'il puisse continuer. Et ça a dérapé. Ça a dérapé solide. Ils ont pas compris le concept tout de suite. Ça l'a pris. Sincèrement, je pense que sur ce roleplay-là, on a passé 2 heures. On a totalement défoncé notre heure de session. Tout le monde a l'air découragé. C'est excellent. Mais le monde était vraiment accroché puis ils ont vraiment cherché. Mais je pense que là, ils ont trouvé. Fait que ça va être intéressant de voir quelles décisions ils vont prendre puis où est-ce qu'on va amener les personnages. Parce que là, c'est des personnages qui sont généralement bons. Fait que là, enlever la vie à quelqu'un, c'est un peu plus difficile. Surtout quelqu'un qui ne connaisse pas du tout, qui n'a aucune raison de le faire. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va les mener avec ça. On commence à avancer dans notre campagne. Fait que ça va être bien intéressant. Donc, cette semaine, on parle du merveilleux rôle de maître du jeu, qui, comme Ludo a bien indiqué, n'est pas toujours facile. Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à devenir maître du jeu? Ludo?
Moi, dans le fond, dans mon petit patelin, on était deux. Et dans le fond, c'est ça, il y avait quelqu'un d'autre qui était maître du jeu, puis nous autres, on voulait jouer à Donjons & Dragons, et ça prenait quelqu'un. Donc, quand l'autre ne pouvait pas, quand un des maîtres du jeu ne peut pas, ça en prend un autre si on veut continuer à jouer. Fait que c'est moi qui ai pris ce rôle-là. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai commencé parce qu'il n'y en avait pas. Je pense qu'il y en a beaucoup que c'est comme ça que ça commence aussi. Ils n'ont pas de maître de jeu. Fait qu'ils font comme, je vais me lancer là-dedans. J'ai acheté les livres. Fait que je me lance là-dedans. C'est sûr que je pense que c'est plus facile quand on a eu quelqu'un qui a passé avant nous. Puis c'est à peu près ça que je vais dire là-dessus. Toi, Flore?
Ben, pour faire le lien avec dans mon entrevue, j'étais jeune, je tripais sur la légende de Zelda, donc tous les donjons, je me fabriquais des donjons par-dessus donjons, et quand quelqu'un m'a fait réaliser que Donjons Dragons existait et que je pouvais faire jouer ces donjons-là à des gens, j'ai complètement viré sur le top et j'avais tout ce côté de création-là que je pouvais enfin mettre en quelque part, puis ça n'a jamais été compliqué de trouver des joueurs. Et donc, ça n'a pas été « tu te ramasses dans ce rôle-là, Flamme ». Ça a été « c'est ce que je voulais ». Et souvent, j'ai eu des occasions de jouer avec d'autres comme joueuse, avec d'autres maîtres de jeu. Puis à chaque fois, je fais « Ah, moi, j'aurais pas fait ça comme ça ».
Ouais, ouais.
« Ah oui, là, moi, je viens de penser à quelque chose là qui a tellement de potentiel manqué. Fait que moi, je vais la faire, la game. Et là, je te vois rire, ça te fait penser à quelque chose, là.
Ouais, je sais pas si ça fait ça pour les games, pour les films puis pour les livres.
C'est ça.
Totalement.
Ouais, hein?
Je note toujours, j'ai mon cellulaire pas loin là, puis je me prends des notes là, j'entends quelque chose, puis je suis comme « Oh, ça ferait tellement de bonne histoire! »
Ouais.
Puis des fois, c'est long avant que je les mette en place, mais j'ai toujours des notes quelque part.
Donc, j'ai le goût qu'il aille... Tu sais, je me dis « Ah, mes joueurs, je me demande qu'est-ce qu'il ferait s'il était confronté à telle situation. Je vois tel film, je vois l'ambiance, moi, je l'aurais twisté de même, tu vois?
Mm-hmm.
Hey, je vais faire une game, je vais faire un setting avec ça. » Il y a une scène, à un moment donné, c'est une scène de combat vraiment cool dans un film. Ah, je veux plugger cette scène-là quelque part. Je veux faire une campagne au complet à des joueurs juste pour qu'ils puissent avoir cette scène-là. Donc ça, c'est un petit peu comment mon cerveau fonctionne, de pourquoi je me ramasse tout le temps à être maître du jeu. J'ai ces images en tête. Je crois que c'est ma façon d'exprimer mon côté créatif, parce que sinon, vous allez voir, si jamais j'ai un papier, un crayon ou un paint, n'importe quoi, vous allez voir mon pas de talent artistique nulle part. Donc, si la seule manière que je le manifeste, c'est à l'intérieur d'une game, ça va être ça. Hein? Il faut que ça sorte en quelque part, parce que manifestement, ça ne sort pas nulle part d'autre.
Dans le temps, il y avait des compteurs qui faisaient ça. Hein? Côté artistique, là, dans le temps, c'était des compteurs. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet. Ça existait, là, pas d'Internet avant. Puis c'est ça.
Une certaine époque, ça a l'air.
Oui. Puis c'était des conteurs qui se promenaient, ce qu'on appelle aussi des bars, mettons. Qui comptaient des histoires, ça. C'était ça leur vie, dans le fond.
Était assisté à des spectacles de conteurs, c'est incroyable. Leurs histoires sont même pas bonnes.
Mais la façon qu'ils comptent.
Qui compte.
Ouais.
Que c'est bon. Ensuite, tu racontes leur histoire, puis le monde te regarde croche.
C'est...
Ils font aussi ça à mes joueurs quand ils racontent une histoire qui s'est passée à Donjon Dragon, fait que c'est correct. Même moi, je regarde croche quand ils me racontent mon histoire. Ça ne le cachera pas.
Mais, puis d'ailleurs, quand je regarde, je pense que c'est une des principales choses que je veux triper sur Critical Role, c'est que c'est pas nécessairement la partie que je trouve la plus intéressante. C'est quand je regarde le maître du jeu, puis je vois à quel point, et en plus à travers le temps, il s'améliore là-dessus, à quel point il est un bon conteur. Donc, et cet élément-là agrémente, ça rajoute un côté très intéressant à écouter pour la partie. Et de plus en plus, ce que je trouve intéressant comme maître du jeu, pourquoi je continue à être maître du jeu, de plus en plus, ça va être pour me surpasser sur certains points. Donc, je suis arrivé sur le fait que je les ai toutes faites, les manches, je les ai toutes faites, les donjons, les énigmes, les variantes de X, Y, Z. Alors, de plus en plus, quand je suis maître du jeu, ça va être de me dépasser. Autant comment gérer ma table, je sais qui j'ai, qu'est-ce qui va les faire triper, mais aussi du côté personnel, ça va être de plus en plus de travailler sur ma narration. Et c'est quelque chose que j'envie un petit peu à ceux qui font du actual play, parce qu'ils ont la rétroaction, ils se voient, du moins ils ont l'occasion de se revoir, faire ça, puis de voir les points qui ont amélioré. Non, sincèrement, pour moi, c'est une position où est-ce que je mets le jeu et côté création.
Tout fini.
Flamme a bien répondu pour moi. Je veux dire, je suis quelqu'un qui est normalement très logique, très cartésien. Et je pense que si quelqu'un me demande de dessiner et ma vie en dépend, je suis un homme mort. Si on me demande de chanter, ben il y en a même des clips. Fait que vous pouvez savoir à quel point je chante mal et que je fais la danse des canards terrible. Fait que on voit rapidement que c'est pas fort. Sauf que le côté écrire une histoire, ça m'a toujours plu. Et souvent, si j'écoute un film ou une série télé et ça tape ses nerfs à ma blonde sur un méchant temps, c'est que je vois les trucs venir. Je suis capable de dire vraiment rapidement qu'est-ce qui s'en vient parce que j'en design des histoires. Fait que je le vois. Le problème, c'est que si je joue une game, c'est la même affaire. Et je suis en plus un mauvais joueur. Je prends soit pas assez de place, soit trop de place, soit je mélange mon DM. Fait que je suis aussi bien d'être DM. Et ça m'est arrivé parce que pendant des années, j'ai pris une pause très longue. Et c'est un de mes amis qui m'a reconnecté avec le jeu de rôle quand il m'a invité à aller jouer à Warhammer. C'est un joueur, il avait une place à une de ses tables. Fait qu'il m'a dit, j'ai parlé au maître du jeu, ça y ferait plaisir que tu viennes jouer avec nous autres. Je suis allé jouer, ça a pris deux games que j'avais recommencé à écrire une histoire. Là. Puis je m'étais mis à racheter les livres, on était en quatrième édition. Puis je me suis mis à racheter les livres, à écrire mon histoire, j'ai appelé mes chums, j'ai fait, ça vous tente-tu? Il faut qu'on trouve un joueur, il nous manque un joueur. On a trouvé le monde, on est reparti. Mais c'est ancré en moi. Je peux pas mastery. C'est vraiment devenu mon dada. Flamme, t'as un peu répondu parce que t'as amené un super bon point. T'as expliqué qu'est-ce que maintenant, toi, t'essayes d'améliorer. T'sais, pourquoi maintenant, t'sais, tu continues de mastery, mais qu'est-ce que t'aimerais maîtriser, justement, dans l'acte de maître de jeu? Toi, Ludo, qu'est-ce que t'aimerais améliorer?
Ben, je pense que c'est mon français. On dirait que j'ai jamais aimé le français. Puis depuis que je suis maître de jeu filmé, là, je vais même fouiller dans des dictionnaires pour des mots. Tu sais, c'est drôle à dire, mais mon français, c'est... Parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui était capable de créer l'ambiance. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui écoute les joueurs. Fait que je sais ce qu'ils veulent. Fait que ça, je suis capable de leur donner. Mais dans ma description, des fois, j'aimerais ça utiliser des termes plus... un plus grand vocabulaire, mettons. Puis c'est... Je pense aussi que c'est bon, quand t'es maître de jeu, d'aller chercher un vocabulaire. Parce que le problème, c'est quand t'écoutes beaucoup de trucs en anglais, après ça, tu la remets en français, je cherche tout le temps mes mots. Puis des mots, des fois, que... Il sonne super bien en anglais, Puis quand je le vire en français, je suis comme, non, il faudrait que j'utilise un autre terme, là, parce que ça, lueur, là, ça fait comme pas le même effet. Mais c'est ça. C'est ce que j'essaie d'améliorer, généralement. On parle de maître de jeu, puis des fois, on met beaucoup l'accent sur le maître de jeu, mais pour avoir écouté beaucoup jusqu'à date d'actuel play, si le maître de jeu il est vraiment exceptionnel, les joueurs sont bof, c'est pas écoutable. Ouais. Mais l'inverse, si le maître de jeu est pas super bon, puis les joueurs sont extraordinaires, c'est écoutable. Fait que c'est vraiment, il y a du monde qui se met beaucoup de stress à être maître de jeu, mais en fait, c'est les joueurs qui font ta partie. La vérité, c'est ça. T'as bien beau être le meilleur, si tes joueurs, ils mangent des chips en avant de toi et ils sont sur leur cellulaire, ça sera... En tout cas, je pense pas que l'expérience va être extraordinaire. Mais si tes joueurs sont dedans, ils se lèvent debout, ils lancent les dés, même si la seule chose te dit, il y a deux gobelins dans la pièce, t'as quelque chose. Ouais.
Premièrement, c'est totalement vrai. Je crois que c'est tout le monde. Si t'as un maître du jeu puis que t'as quatre joueurs, le maître du jeu fait 20% sur la table. C'est quand même un 20% qui a de l'impact.
Ouais, oui.
Et que si tes joueurs sont bons puis qu'ils ont du potentiel, ben il faut que tu leur donnes plus de liberté. Si c'est le fait qu'il y a de la liberté qu'ils vont performer, il faut que tu leur en donnes. Si tes joueurs ont besoin d'être assurés, enlignés, qui peuvent avoir un rôle plus passif ou qui préfèrent quand il y a des un petit peu quasiment comme s'il n'y a pas des choix ou que tu leur dis des possibilités pour qu'eux font non, là maintenant que tu me dis les possibilités, j'envoie une autre. Donc, mais si tu as besoin de leur présenter des options pour qu'ils performent, ben là, il faut que tu le vois cet aspect-là. Donc je pense que le maître du jeu, il peut pas faire la game à lui tout seul. Il fait 20% si on est 5 sur la table, mais en même temps, c'est un 20% qui peut quasiment vitoer. Tu peux avoir 4 incroyables joueurs, puis si le maître du jeu s'arrange que ça va être nul là.
Mais c'est souvent une très mauvaise conception, surtout au niveau des nouveaux joueurs qui pensent que le maître du jeu et les joueurs sont un contre l'autre. C'est totalement faux. C'est vous créez une histoire, tout le monde ensemble. Tu peux pas essayer de tirer d'un bord l'histoire puis que t'as les joueurs de l'autre côté qui, eux, veulent l'amener ailleurs. Ça l'avancera pas. Ça va être terrible comme campagne puis ça va durer 3 sessions. Aussi bien vous parler, on a souvent dit trouver votre style dans le premier épisode, mais c'est exactement ça ici. Si le style fonctionne bien entre un maître de jeu et ses joueurs, ben c'est là que la magie arrive. Puis là, vous allez avoir quelque chose qui va bien se soutenir parce que c'est beaucoup de travail avec maître du jeu pour préparer les choses, mais c'est pas quelque chose qui en retire seul lui le plaisir. Au contraire, les joueurs aussi, mais les joueurs doivent amener une contrepartie à la table aussi. Le meilleur maître du jeu au monde, ça pourrait être Matt Mercer qui est assis là, qui raconte l'histoire. Effectivement, ces 4 joueurs sont en train de regarder leur téléphone ou manger des chips. Ça va être une game terrible. Ça va durer 45 minutes. Puis il va plier bagage. Puis ça va être fini.
J'ai essayé dernièrement des jeux narratifs. J'avais déjà essayé l'année passée le système Genesis puis Star Wars, qui était beaucoup plus axé sur la narration. Puis, en tout cas, si les joueurs participent, moins d'ouvrages pour le maître du jeu. Et dernièrement, on a joué à Shadowrun Anarchy, puis il y a une méthode de jouer sans maître de jeu. Et je pense que ça a trop bien été, parce que je pense que c'est ça qui est arrivé, pourquoi que la dernière game de Donjons & Dragons a été si difficile. Parce qu'ils ont pris une habitude à pouvoir faire et décrire ce qu'ils veulent dû au système de règles de Anarchy. Donc là, en revenant sur un système plus serré, ils ont quand même continué à faire comme « Ah, c'est pas grave, j'y vais, puis tu sais, je continue, puis je décris la scène, puis même si j'ai un échec, je continue à décrire la scène » versus ce qu'on est plus habitué à le maître de jeu décrit la scène selon le résultat du jeu. Et ça a été super intéressant de jouer une partie où le maître de jeu tombe presque inutile. ça a vraiment changé aussi dans ma tête le besoin du maître de jeu. Je me suis rendu compte que certains jeux, il n'y en a pas besoin.
Mm-hmm. Intéressant. Mm-hmm. Moi, je dirais souvent mes joueurs prennent un gros rôle aussi. Il y a des games que je peux passer 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure sans pas dire un mot. Puis que mes joueurs vont faire leur roleplay entre eux. Puis j'ai pas besoin de rien faire, j'ai juste besoin de leur dire des fois, tu sais, ah, je vais checker tel truc ou tel truc. Ok, c'est beau, fais ton rôle, on fait ça. Mais ils sont capables de. Ils sont facilement capables de reprendre une session, puis je peux m'en aller faire autre chose, revenir 10 minutes plus tard. Ils sont encore sur le même point. Ça, j'adore ça, par exemple. Puis justement, moi, ils m'ont fait le contraire. Ils m'ont demandé, tu sais, est-ce que tu veux qu'on mette un peu plus d'emphase, mettons, sur nos attaques, les décrire un peu plus pour toi te libérer, puis te concentrer un peu plus sur tes monstres, faisant du actual play. Ça peut aider un peu. T'sais? Comme ça, t'as pas besoin de toujours venir parce qu'à un moment donné, les attaques, ça revient vite les mêmes descriptions, sinon. Fait que, ouais, mais je savais pas qu'il y avait des jeux que tu pouvais absolument pas avoir de maître de jeu pantoute. Ça doit être assez intéressant.
La seule chose que tu fais en tant que maître de jeu, c'est d'écrire l'histoire. Mais après ça, ils font ce qu'ils veulent. L'histoire peut partir dans n'importe quel sens.
L'arbitre, t'es là au final pour. Servir un peu de moteur pour ça, tu mets, tu passes avec une histoire, t'apportes des éléments, et si, ben c'est ça, si ton intérêt dans le maître du jeu, c'est d'écrire une histoire, puis qu'on est restreint à l'histoire, pas écrire un livre. Si tu veux faire une game, écris une histoire, mais il faut qu'au fur et à mesure que tu l'écrives, tu dis, ah oh, mon Dieu, j'espère que ça va aller, je sais pas dans quel sens ça va aller. Je crois que oui, c'est ce côté créatif à plusieurs. C'est, dans le fond, c'est mon média pour raconter des histoires. C'est le fait que je suis pas seul à le faire. C'est le fait qu'il y a un petit côté jeu et gambling. Et le fait que c'est quelque chose qui se joue entre amis. Je reviens toujours au rôle de maître de jeu, étant donné que je vois tout le temps des nouvelles choses qui pourraient être faites. Donc, mon imagination, qu'elle passe en quelque part. Je
vois ça. Continuer sur ton affaire de gambling. Je trouve que c'est important pour un maître de jeu de faire que le monde lance des dés. Parce que c'est drôle à dire, mais le gambling, c'est quelque chose, malgré tout, de le fun, puis qui amène des trucs dans le cerveau quand tu gagnes, quand tu perds, la chance de gagner, la chance d'échec. S'il y a, ben, il y a des jeux qui n'ont pas de dés, mais souvent, les jeux qui ont beaucoup de lançage de dés, le monde les apprécie plus à cause de cet effet-là. L'effet qu'il y a, il y a du gambling. Tu sais pas si tu vas gagner, ça augmente un peu ton stress, mais on cherche le...
Ouais, ben, je veux dire, c'est ce côté que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver puis que tu veux que ça arrive, le non-contrôle, tout ça.
Ouais.
C'est pas pour rien que il y a beaucoup de gens qui aiment les jeux d'hasard, même si les dés sont contre eux. À ce moment-là, c'est un mélange de narration puis de gambling. Deux éléments qu'on mélange ensemble.
Ouais. Oh, ouais, c'est ça.
Tu parles de gambling puis de fait de pas savoir puis les chances de gagner ou de perdre. Mais ce que j'aime aussi, c'est le fait que même s'ils ont un jet, des fois, tu viens de mettre un doute dans leur esprit. Est-ce qu'ils ont réussi ou non? T'sais, est-ce que l'autre joueur, parce que ça peut être un jet contesté, fait, qu'est-ce qu'il pouvait prendre comme une certitude devient un doute? Est-ce que j'ai été assez haut? Est-ce que je crois vraiment le personnage? T'sais, toi, tu leur donnes de l'info, mais le joueur, le personnage va croire ce qu'on lui dit, mais le joueur derrière... Lui va toujours avoir un petit doute. Puis c'est là que tu vois les très bons joueurs. C'est ceux qui vont faire fi de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils ont compris parce que ben, tu sais, ils te connaissent bien, ils connaissent ton style. OK, ouais, c'est bon, ils essaient de nous amener là. Mais le personnage, lui, a absolument aucune idée et il fonce dans le mur. Puis ils se font pogner par les nobles puis ils se font mettre en prison. Tu sais, je veux dire, c'est ce genre de choses-là.
Mon idée est revenue. Je voulais dire qu'à la fois, j'essaie simultanément de faire rouler les joueurs le plus souvent possible et le moins souvent possible.
Ouais, c'est ça. C'est un défi.
Comment je m'y prends? Ben, pour que ce soit le plus possible, moi, j'ai adopté l'approche du player facing. Je ne connais pas de terme similaire en français. Et comme maître jeu, je ne roule presque aucun dé. C'est, j'ai tout retourné Donjon Dragon pour que ça soit juste les joueurs qui roulent. S'ils font une attaque magique, donc avec l'attaque, ça reste eux. Mais si normalement, ça serait un save de l'adversaire, j'ai retransformé la charte de l'autre bord pour que ça soit eux qui roulent quand même. S'ils attaquent, ils doivent frapper le AC, sauf que c'est pas moi qui roule pour toucher leur AC. C'est eux autres qui roulent pour savoir s'ils sont défendus. Et savez-vous à quel point ça les rend plus actifs ou même ils acceptent des fois parce que c'est pas derrière un board, non, ça marche pas.
Ouais.
Quand tu roules un 1 sur ton quand tu fais une attaque que l'autre est censé faire un save, tu vois là, l'espèce de côté gambler, puis voir un mec qui veut rouler des dés, maudit que c'est plat.
Ouais,
c'est vrai, qu'est-ce qu'on veut, il y en a qui aura, puis je vois ta face, Phoenix, je vais être contente si tu me contredis, j'aime ça quand on se contredit. Ceci étant dit, je leur donne le plus de roulement possible, mais de l'autre côté, je veux qu'il y en ait le moins possible, ce qui veut dire quand il y en a, je veux que ça amène quelque chose, je veux que réussite ou échec puisse nous emmener dans deux directions, je ne veux pas que ça ralentisse le jeu. Si on est dans une enquête, je veux que les personnes trouvent l'arme du meurtrier, je vais essayer le moins possible de leur faire un roulement, c'est dit je check en dessous du lit, puis elle est là, je vais lui dire voilà, t'as trouvé l'arme du meurtrier. Je ne vais pas leur faire faire un roulement de la salle, puis tout ça, qu'on a un qui d'un coup qui échoue, puis que là on reste, puis que ça stagne. Donc, ne jamais faire des roulements de dés qui vont potentiellement amener à stagner le jeu. À la limite, tu pourrais faire, ben, peu importe c'est quoi le jet, ils trouvent l'arme, mais s'ils roulent plus fort, peut-être qu'avec leur perception, ils vont voir la trace de sang qui amène jusque l'arme jusqu'en dessous, ce qui laisse croire à la personne, ah, mais la personne, non seulement elle a stabé le meurtrier, mais je crois comprendre qu'elle était blessée elle-même. Donc, peut-être qu'il y a une piste et on pourrait la retrouver. Donc là, on apporte de l'information supplémentaire, un bonbon supplémentaire. Là, ça peut devenir intéressant de le mettre, mais j'aurais tendance à éliminer ce jet-là s'il y a un potentiel d'arrêter l'action. Donc, le plus possible, je leur donne les roulements de dés, moi, je m'en débarrasse, et le moins possible, ce que les roulements qui sont utiles.
Oui, c'est important. De, quand on lance des dés, de ne pas faire du 0 ou 1. C'est important de penser à l'histoire. Puis si, quand tu lances ton dé, ça fait qu'il y a une information qu'ils ne sauront pas, puis qu'il va falloir qu'ils vont passer à côté, tu rates un peu ce que tu as de faire. C'est ça, il ne faut pas toujours que ce soit réussite-échec. Il faut que ça peut être réussite, réussite plus, réussite plus plus. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps réussite et échec.
Ouais, ou une alternative au help. Tu fais une action, tu n'as pas réussi, il te manquait un ou deux, puis là, quelqu'un d'autre doit faire une action, puis sa difficulté à lui va être diminuée parce que tu as déjà eu une bonne contribution. À la place de faire que c'est avec avantage, tu peux décider que ça baisse la difficulté de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien dans le manuel qui va t'interdire ça. La règle d'aide sert à créer le fait de ben, on veut enlever que c'est juste le dé qui a un impact. On veut que vous soyez créatif.
Je sais que Phoenix, t'aimes bien ça, lancer un dé juste pour faire peur à tes joueurs.
Ouais.
Tu dis même pas quoi, tu lances le dé, les joueurs sont comme, qu'est-ce qui se
voilà. Passe? Je trouve que c'est un outil dans l'arsenal du DM, du maître de jeu, de mettre une tension. On rentre dans une salle, puis là, ils entendent le dé, puis en plus, moi, ils voient pas les dés, et ils entendent juste le dé dans la boîte de bois. Fait que, ça l'amène un petit pourquoi tu roules un dé? Là, je suis comme OK. Ou des fois, pire, je leur demande de rouler un dé. Juste comme ça.
C'est ça, c'est bon.
T'sais? Ah, OK, c'est bon. Tu peux-tu me faire un jet, un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît? Puis là, tu regardes. OK. 14. OK, c'est bon. Puis là, je note quelque chose. Et là, ils sont comme.
Ça revient juste dans une heure, tu sais.
Mais, ah oh ouais, il y a des fois que ça revient pas, il y a des fois que ça revient dans une heure, puis je leur dis pas s'ils ont réussi ou non. Comme ça, justement, le côté gambling, mais ça fait que, regardez, les humains sont des êtres d'émotion, puis c'est difficile d'amener certaines émotions dans un jeu de rôle, parce que tu le vois, tu le sais que c'est un jeu si tu t'immerses pas bien. Fait que je trouve que c'est une façon de ramener, tu sais, pourquoi, ou ce genre de truc-là, tu sais. J'ai déjà fait faire aussi des actions à des joueurs juste parce qu'ils ont manqué un jet. Puis OK, ben là, ton personnage décide qu'il pète un plomb puis il saute d'en face de l'autre. Juste comme ça. Ah, OK, OK. Parce que ça fait... Ça avance l'histoire. Puis est-ce que tu as été capable de garder ton sang-froid ou non? Fait que oui, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un bel outil.
Je vais éviter de rouler des dés, mais je dois avouer qu'il y en a un que j'aime beaucoup. J'ai un dé avec des émotions. J'ai des dés plus ou moins. Puis des fois, je roule pour me donner une idée de qu'est-ce qui arrive avec la météo. Ça me tente pas de choisir. Ah, surprise! Ils sont en train de marcher, puis il y a une surprise. Puis ils sont dans une forêt. Est-ce que je fais que des loups sortent? Ou encore mieux, soudainement, ils sont dans une pente, puis leur charrette, il n'y a plus de break, admettons, là, où ils perdent le contrôle. Surprise! Ah oui, ça m'inspire ça. J'aime ça, la charrette. Je vais l'intégrer. Ça va donner un élément. Donc, pour là, j'aime rouler les dés. Pour faire peur, OK, je vais te donner celle-là. Genre, moi, j'étais prête à rentrer dedans, là. Ah.
Ça rajoute un quelque chose aux joueurs, je trouve, quand je fais ça.
Puis... Ah, tu me fais penser à Critical Role quand le party stagne, puis t'as Matt Mercer qui roule, puis t'as Laura Bailey qui est comme « Les gars, gang, ils arrêtent pas de rouler des dés, on va se faire attaquer, bouger! »
Ouais, c'est ça, ça booste un peu.
Le fameux jet de perception, puis la personne, elle voit quelque chose, c'est comme « Ah, tu vois rien. » Il y a des chances que tes joueurs cherchent pendant des heures dans ta pièce. Là, ça te laisse le temps de repenser. OK, comment je vais m'en ressortir de cette situation-là?
Oui. Ah, il y a toujours façon de ramener les joueurs anyway. C'est pas trop inquiétant.
Ouais. Oui, maître du jeu, est-ce que on parle beaucoup de nos expériences, qu'est-ce qui nous amène à être maître du jeu? Toi, Phoenix, il y a quelque chose qu'on n'a pas été regardé, puis tu as dit, c'est ah, ben, comme joueur, ça marche pas. Fait que je suis maître du jeu. C'est-tu comme un rôle par dépit?
Non, j'ai joué longtemps. Et je joue encore, là, en ce moment, à Alien. Okay. Je joue une fois de temps en temps encore. C'est vraiment pas ça. Mais je trouve que, personnellement, je peux être une dure critique envers moi-même. On me le dit souvent, mais je trouve qu'en tant que joueur, soit avant, je faisais des personnages qui étaient beaucoup trop sérieux, puis dark, puis je trouvais que ça roulait pas bien, ça roulait carré dans les histoires, ou là, c'est des personnages qui sont peut-être un peu trop humoristiques, qui sont le comic relief du groupe. Mon Irorak était un excellent exemple où c'est un barbare qui veut pas se battre, mais qui a une double personnalité. Au moment où il se fait attaquer, il snap. Puis là, c'est quelqu'un qui adore le combat. Fait que, tu sais, mais avant, le gars, il a aucune émotion. Il parle comme ça tout le temps. Puis c'est super le fun. Il est bien excité. Il a jamais été aussi heureux de toute la vie. Fait que, tu sais, c'était un peu le comic relief du groupe. Fait que je veux pas non plus n'en mettre trop. Fait que c'est une balance. Puis justement, je suis tellement souvent derrière le screen maintenant que reprendre un rôle de joueur, je trouve ça plus difficile. C'est pas. Je pense que je suis bien derrière le screen. Ça me fait plaisir de jouer une fois de temps en temps, mais je ne sais pas si je serais capable de jouer dans une campagne à long terme.
OK.
Puis pas mastery du tout.
OK.
Je pense que c'est une balance entre les deux, alors qu'il y a beaucoup de monde qui veulent, tu sais, préfèrent jouer que mastery. Moi, c'est le contraire, je pense. J'aime mieux mastery que jouer.
Toi, Ludo, tu préfères mastery ou jouer si tu devais en choisir un là, pour le reste de ta vie?
Pour le reste de ma vie, j'aurais pas le choix de dire masterer parce que j'ai trop d'idées. Je veux tout le temps. Il y a trop de choses. Puis c'est un peu ça le problème. Il faut que. Je pense que c'est ce qui t'arrive aussi peut-être. Il faudrait que je me parte des parties en diagonale pour pouvoir tout vivre ce que j'ai dans la tête. Il faudrait que je m'ouvre 6 tables moi aussi dans le fond là, pour réussir à passer au travail.
J'ai normalement des notes pour 2 autres campagnes. Pendant que j'en fais une. J'ai au moins, en ce moment, là, on va ouvrir une nouvelle campagne avec des viewers, fait que j'ai des notes là-dessus. J'ai des notes pour une autre campagne et j'ai probablement celle, si les héros d'Arulus finissaient demain, j'aurais le plan, la suite des héros d'Arulus. J'ai des notes là-dessus et j'ai des notes sur une campagne pré-héros d'Arulus aussi. Oh, fait que, wow. C'est assez ridicule. C'est le temps qui manque. Je pourrais pas faire autant de campagnes. Ouais. Mais des idées, ouais, c'est ça. Mais... je suis un gars de projet, vous le saviez pas encore.
Ah ouais. Mais je m'ennuierais de pas jouer. Sincèrement, pas jouer, je m'ennuierais. J'aime beaucoup ça jouer. J'aime tester des personnages. Puis, c'est ça. Je serais peut-être pas prêt, moi non plus, à embarquer dans une longue campagne. Mais, quelque chose, là, de dizaines de parties, là, je suis dedans.
J'ai replongé dans quelque chose que je vis quand je suis une joueuse, qui fait en sorte que, pour moi, c'est beaucoup plus intense d'être une joueuse que maître de jeu. Quand t'es maître de jeu, t'as plein de personnages, tu sors ça, tu guides un petit peu les autres, tous tes autres partenaires que sont les joueurs, dans ce qu'ils veulent vivre et explorer, et tu tires souvent ta satisfaction de là. Comme joueuse, ce qui m'arrive, et ce que je vise comme joueuse, c'est vraiment de vivre des émotions, des situations, des fois de faire vivre des choses à mon personnage qui ressemblent à ce que j'ai vécu dans ma vie ou des émotions que je visite rarement ou que j'ai pas de place pour les exprimer. Donc, mon jeu est vraiment ancré là-dedans et ce qui fait que j'aurais de la misère à répondre à ma propre question. S'il fallait que je choisisse, je pense que je choisirais le saut à parachute, pas de parachute. Ça serait très difficile pour moi à choisir, étant donné que les deux ont une fonction exutoire, quasiment, qu'on pourrait dire.
Oui, oui.
Qui est différente. Et j'ai vraiment la chance de pouvoir être maître de jeu et joueur.
Merci Flamme et merci Ludo d'avoir participé à cette belle discussion sur le rôle de maître de jeu. Je pense qu'on avait encore beaucoup d'autres choses à discuter, puis on va voir comment on va se permettre de faire un part 2. Je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important, puis j'espère que vous avez apprécié notre discussion et au plaisir de vous avoir comme auditeur la semaine prochaine.
Au plaisir!
Bye!
Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que tous et chacun ont une certaine quantité de temps disponible pour pouvoir écouter des podcasts sur les jeux de rôle et ça nous touche énormément que vous avez décidé d'écouter le Note. La semaine prochaine, nous aurons le début des questions et réponses que nous avons fait live sur Twitch. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Nous avons adoré et définitivement, nous serons live sur Twitch les vendredis soirs de 22h30 sur The Phoenix Lair. Un peu plus souvent qu'à l'avant pour faire les enregistrements de ces podcasts. Au plaisir de pouvoir lire vos commentaires lors de nos lives. Je vous souhaite donc une excellente semaine, des très bonnes sessions de jeux de rôle et à lundi prochain.